Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, suspension du traité russo-américain sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, dégradation de la relation transatlantique, cassure entre Européens et très forte incertitude quant à l'avenir de l'Europe à quelques semaines du Brexit. Regard croisé sur l'ordre mondial à l'épreuve de Donald Trump avec nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages dont Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, qui vient de paraître dans une nouvelle édition augmentée et actualisée chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Gomard, historien et directeur de l'Institut français des relations internationales, auteur de L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, paru aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Affolement du monde, pathologie des relations internationales, autant de titres pour chacun de vos ouvrages qui traduit une inquiétude certaine. J'ai nommé quelques sujets, guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dégradation de la relation transatlantique, incertitude quant à l'avenir de l'Europe, forte tension entre Washington et Moscou sur fond de suspension du traité de la guerre froide interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5500 km et sauf coup de théâtre, le traité deviendra caduc en août prochain. La plupart des chercheurs évoquent la fin des guerres étatiques au profit des conflits infra-étatiques. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne rouvre-t-elle pas le chantier des conflits éventuels entre États ? Est-ce qu'elle peut dégénérer en conflits armés et quel intérêt finalement la Chine aurait-elle à entrer en rivalité avec les États-Unis ? Bertrand Badie.
Oui, alors d'abord, peut-être à titre d'exergue, de préambule, la pathologie ne conduit pas à l'affolement. Au contraire, quand on connaît une maladie, on sait la traiter et on n'en a pas peur. Le grand problème des relations internationales aujourd'hui, c'est qu'on refuse de voir où sont les maladies qui affectent, les pathologies qui affectent le système international. À partir du moment où on les connaît, eh bien, on est en mesure de les traiter. Et je crois que, de ce point de vue, ce que vous mettez en évidence relève effectivement de dossiers de grande importance, hein. Je ne veux pas du tout les sous-estimer. Je ne suis pas sûr que ce soit les dossiers essentiels de la vie internationale aujourd'hui. Alors on peut effectivement commencer par la rivalité Chine-États-Unis, mais peut-être pour lui donner une allure qui ne correspond pas à ce que l'on dit généralement. Mais à condition de ne pas oublier que l'essentiel ne se joue plus là. L'essentiel, il se joue dans un Sud ignoré et qui pourtant est majoritaire en population, en insécurité de toute nature, en insécurité humaine, en insécurité alimentaire, en insécurité sanitaire, en insécurité environnementale. Bref, un Sud qui est profondément déstabilisé et, si on y prend garde, va complètement bouleverser l'ordre international. Ça, c'est effectivement le souci numéro un qu'il faut savoir regarder en face et qui renvoie à tout un tas de facteurs que l'on oublie généralement, que l'on oublie. D'ailleurs, les enjeux sociaux internationaux sont devenus bien plus importants que les enjeux géopolitiques, que le comptage des missiles, INF ou pas INF. Bon, tout ça, c'est ce qui se passait il y a 50 ans et qui correspond pas.
Mais qui revient.
Et qui revient comme reliquat, mais qui n'est plus un enjeu international fondamental. Le problème du monde, ce n'est plus la rivalité entre Moscou et Washington. Ça, c'est terminé, c'est loin.
Mais c'est peut-être entre Pékin et Washington.
Alors voilà. Évidemment, lorsque l'on prend en compte la rivalité entre la Chine et les États-Unis, on est confronté à toute autre chose. Pourquoi ? D'abord parce que l'un des deux est issu d'un monde qui n'était pas le nôtre. La Russie et les États-Unis, c'était le même monde. C'était en fait la même histoire, la même dérive de l'histoire westphalienne européenne. Là, on voit un intrus, qui est la Chine, et qui, de ce fait, vient bouleverser les codes. Bouleverser les codes, ça veut dire, et on a trop tendance à le sous-estimer, qui arrive sur la scène mondiale avec une culture de l'international, une conception, une vision de l'international tout à fait différente de ce qu'étaient les nôtres jadis et naguère. Est-ce que pour autant cette insertion d'un intrus dans le jeu international va se faire selon les mêmes règles, les mêmes pratiques, les mêmes rituels que ce que nous avons connu pendant des siècles et des siècles de système westphalien, c'est-à-dire ce vieux système européen tel qu'il s'est constitué à la sortie du Moyen-Âge. Alors c'est là que les choses sont bien compliquées. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que la Chine vient d'une longue histoire impériale, d'abord, et une longue histoire de dominer, à une expérience de subir une domination comme aucun des autres États qui formaient l'oligarchie européenne n'en ont jamais eu. Et d'autre part, parce que la Chine a constaté, observé, c'est d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est dans le discours quotidien, que cette fameuse hégémonie, dont, entre parenthèses, je dirais qu'elle ne s'est jamais accomplie nulle part, hein, elle est un peu d'ordre mythique, mais cette fameuse hégémonie a été très coûteuse et finalement s'est révélée être un échec pour ceux des États qui ont cherché à la porter. Donc, les Chinois sont pas pressés de devenir des hégémons. La vraie question, bien sûr, et je pense qu'on va en débattre avec Thomas, c'est est-ce que, pour autant, la Chine ne va pas être rattrapée par l'ordinaire des relations internationales telles que nous l'avons connue, et finalement dérivée vers un modèle hégémonique classique, c'est l'hypothèse de Graham Allison, c'est-à-dire le fameux piège de Thucydide. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop, je veux bien m'expliquer là-dessus. Ou est-ce qu'on va inventer un autre système qui sera pas pour autant plus vertueux, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, qui sera pas pour autant pacifique, c'est pas non plus ce que je veux dire, mais qui ne sera plus calqué sur ce faux cycle de succession des hégémonies. Je dis faux parce qu'encore une fois, aucune hégémonie ne s'est jamais réalisée dans l'histoire, sauf peut-être celle d'Athènes du temps de Délos, il y a un certain temps quand même.
Alors, Graham Allison, que vous citiez à l'instant, Bertrand Badie, et donc professeur Allison, dont le dernier ouvrage vient d'être traduit en français sous le titre « Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, point d'interrogation ». Thomas Gomard.
Bon, d'abord, moi, je suis très heureux d'avoir cette discussion avec Bertrand Badie, parce que j'ai lu, évidemment, ses livres, et en particulier, Nous ne sommes plus seuls au monde, et je pense, en ce sens, qu'il a entièrement raison. Et en même temps, dans l'affolement du monde que j'ai écrit précisément pour ne pas céder à l'affolement, nous avons un certain nombre de désaccords assez fondamentaux, et son intervention va me permettre d'aller droit au but. Je ne pense pas du tout qu'il y ait, au fond, un choix à faire entre dire ce qui est le plus important, ce sont les questions sociales ou le fait social pris au niveau global, ou ce sont les questions politico-stratégiques. C'est pas l'un contre l'autre. En fait, je pense que nous sommes face à une situation d'empilement de ces importances, et ce n'est pas, à mon sens, juste dans l'appréciation de ce qui est en train de se passer, d'écarter au fond les grandes questions politico-stratégiques en disant elles appartiennent au passé. Moi, ce qui me frappe beaucoup avec tous les déplacements que je peux faire, c'est effectivement que le Sud est ignoré, et ça, je vous rejoindrai très volontiers, Bertrand, là-dessus, et que c'est le fait d'ignorer à ce point, en particulier l'Afrique, est un des sujets auxquels je consacre un chapitre, est une question de toute première importance. Mais cette importance que nous devons donner au Sud, à la fois en termes d'analyse et aussi en termes politiques, ne doit pas nous faire perdre de vue l'attitude d'un certain nombre de régions ou de pays qui sont dans une volonté de puissance manifeste. Et de ce point de vue-là, je ne partage pas l'analyse que vous pouvez faire aujourd'hui du régime chinois. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, effectivement dans le régime chinois, l'expression d'une humiliation ressentie, voir tous les discours du président Xi, par exemple, se référant à la guerre de l'opium. Et donc ça, c'est quand même extrêmement fascinant. Et il y a une volonté de retrouver la centralité historique de l'Empire chinois, une centralité qui, au fond, il occupait depuis l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté l'Empire romain et de l'autre côté l'Empire chinois. Et quand le président Xi dit qu'il veut régler la question de Taïwan au cours de son mandat, je pense que ce sont des choses à prendre extrêmement sérieux. Quand la Chine réarme, alors évidemment dans des proportions bien moindres que les États-Unis, mais se dote d'une marine de guerre, on ne peut pas écarter ça, si vous voulez, en disant au fond, c'est moins important que l'aspiration à un nouvel ordre, etc. On est aussi obligé de tenir compte d'un terme peut-être sur lequel nous serons en désaccord, mais du rapport de force.
Bertrand Badie.
Oui, je suis bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de mettre de côté, d'ignorer toutes ces dimensions que vous rappeliez. Simplement, deux choses. La première, c'est que pourquoi je dis que les enjeux sociaux mondiaux l'emportent sur les enjeux stratégiques ? C'est parce que autrefois il n'y avait que les enjeux stratégiques. Mmh. Et pourquoi autrefois n'y avait-il que les enjeux stratégiques ? Parce que nous étions dans un système international plus restreint qui se caractérisait par une relative égalité entre acteurs. Donc il n'y avait pas un décalage dans leur capacité socio-économique telle que ça devenait un enjeu. Et aussi pour une autre raison, c'est que les relations internationales se ramenaient à une compétition de puissance. Aujourd'hui, les choses ont changé. D'abord, la puissance est mise en échec un peu partout. Et la superpuissance américaine ne parvient plus, par exemple, à gagner les guerres. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle est en déclin, la thèse décliniste pour les États-Unis ne me paraît pas sérieuse. Non pas parce que ses stratèges sont incompétents. Mais simplement, précisément parce que le monde n'est plus réglé par cette compétition de puissance. Et que vouloir à tout prix replacer celle-ci, comme pour occulter le reste c'est justement ce qu'il y a de nouveau. C'est-à-dire une mondialisation, c'est quand même le terme clé dans notre métier. Une mondialisation qui crée un système international unique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute l'humanité, sauf peut-être les Palestiniens, se trouve réunie dans un seul et même système international. Eh bien, ce simple fait de l'inclusion généralisée crée des décalages socio-économiques absolument fondamentaux, terriblement aggravés par le fait que maintenant, le pauvre sait qu'il y a des riches, voit les riches. Et ça crée un type de mobilisation transnationale à l'échelle mondiale qui devient extrêmement déterminant. Alors la Chine là-dedans, la Chine, d'abord effectivement, je crois qu'on est d'accord là-dessus, puisque vous le rappeliez vous-même, est profondément marquée par ce passé d'humiliation. Et profondément convaincu que le jeu hégémonique classique, tel que nous le vénérons dans nos grammaires, nos vieilles grammaires de relations internationales, n'est pas concluant. C'est-à-dire que les États-Unis se sont épuisés dans l'exercice d'une hégémonie qui s'est révélée plus coûteuse que fructueuse. Ça, je pense que les dirigeants chinois en sont conscients. Alors, à partir de là, je vous rejoindrai sur un point. C'est que se dispenser du référent de puissance à l'échelle régionale est impossible. C'est-à-dire quand on accumule des ressources, qu'on devient une puissance, voire une grande puissance comme la Chine aujourd'hui, on ne peut pas, effectivement, ne pas chercher à exercer une domination sur le plan régional. D'où, effectivement, ces points de contact durs et dangereux, Chine-Japon, Chine-Inde, peut-être Chine-Asie du Sud-Est, vous évoquiez la question de Taïwan, c'est effectivement une banale éclosion d'une puissance régionale et personne ne peut effectivement empêcher la Chine de chercher cette puissance régionale avec tous les dangers que ça implique. Au niveau mondial, là nous sommes face à une inconnue. C'est-à-dire, regardez quand même la différence de traitement, même encore aujourd'hui, alors que les mutations, je vous rejoins là-dessus, sont devenues importantes. La Chine ne cherche pas à intervenir militairement aux quatre coins du monde, comme c'était presque le dogme stratégique chez les vieilles puissances. La Chine ne cherche pas à prendre position dans des conflits dont elle se définit comme extérieure. Bizarrement, je l'ai entendu encore tout récemment d'un responsable chinois qui me parlait directement, la Chine ne veut même pas rejoindre le G7 parce qu'elle ne veut pas apparaître comme étant du club des oligarques et qu'elle préfère le confort, je dirais, qui est issu de Bandung 1955, c'est-à-dire être avec les pauvres, être avec les petits. Ça ne trompe personne, nous sommes bien d'accord, ça ne trompe personne que les choses soient claires de ce point de vue-là. En revanche, ça indique une autre voie. L'inconnu, c'est ce qu'est cette autre voie. Est-ce que ce sont des différences cosmétiques, des différences rhétoriques, c'est, je le sens bien, ce qui a votre préférence, ou est-ce qu'il s'agit de la réinvention de quelque chose? Je pense que la Chine aujourd'hui, ce n'est pas tellement la puissance de l'économie qui l'intéresse que l'économie de la puissance. L'économie de la puissance, c'est quoi? C'est-à-dire ce que aux États-Unis on appelait le smart power, c'est-à-dire le pouvoir intelligent qui empêche de dépenser là où c'est pas la peine de dépenser. Ce qui est une toute autre façon de concevoir les relations internationales. Je ne sais pas si c'est ce qui va se réaliser, mais je sais que ça existe.
Thomas Gomard.
Bon, point de convergence, point de divergence. Convergence sur le facteur clé de l'accentuation des inégalités, ça je vous rejoins entièrement, à la fois entre les pays et au sein des pays. Bon, et le fait qu'on ait une telle répartition de la richesse à l'échelle globale est effectivement un des facteurs clés, je vous rejoins entièrement. Point de divergence. D'abord sur l'analyse, ce que vous appelez la dérive westphalienne, je ne la retrouve pas dans l'historiographie avec laquelle je me suis formé. C'est-à-dire que je me suis formé avec Renouvin, Durosel, Giraud, pour lesquels la prise en compte du sociétal, comme vous diriez, était déjà présente. C'est-à-dire que c'était pas du tout une histoire des relations internationales purement interétatiques, mais une histoire des relations internationales qui s'est nourrie justement du mouvement des opinions et sont des travaux déjà très anciens. Bon. Et ça me conduit à faire une référence à Braudel. Je pense pas que Braudel soit dans une logique très interétatique, mais il a une formule qui, à mon avis, nous aide à avancer, c'est de dire il n'y a pas de capitalisme sans hiérarchie. Et de ce point de vue-là, ce que cherche la Chine, c'est précisément d'occuper la première place, qui est le premier, au fond. La vieille question qu'on se pose toujours en relation internationale, si on a une approche classique, qui est le premier? C'est tout à fait évident à mes yeux que la Chine cherche à être la première dans le domaine économique, et c'est tout à fait évident qu'il y a très peu de contre-exemples historiques où une telle ascension économique ne se traduit pas par des ambitions militaires. Vous les limitez pour l'instant à l'aspect régional, je vous rejoindrai en ce sens, mais quand j'observe, si vous voulez, le fait que la Chine ouvre une base à Djibouti, le fait qu'en juillet 2017, vous avez plus de navires de guerre chinois en Méditerranée que de navires de guerre français, que ces marines vont manœuvrer en Baltique avec la Russie, comme bon réaliste que je suis obligé de prendre ça en compte. Et ce n'est pas du tout insignifiant à mes yeux. C'est-à-dire que j'y vois, si vous voulez, au fond, le fait que la Chine a lu l'amiral Mao et peut-être à son tour veut aussi avoir une sorte de présence au monde comme les Britanniques ont pu l'avoir au 19e siècle ou les Américains au 20e siècle.
Alors, vous évoquez, Bertrand Badi, le désir et le souhait de domination sur le plan régional. Et Thomas Gomard parlait, lui, du fait que la Chine cherchait à être la première. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots sur la Corée du Nord par rapport à cela. Finalement, comment est-ce que la Chine voit Donald Trump se poser en interlocuteur du leader nord-coréen, proposer un deuxième round de négociations qui aura lieu le 27 et 28 février prochain à Hanoï, au Vietnam? Et en particulier, est-ce que la politique de Donald Trump peut, selon vous, déboucher sur une situation positive, et est-ce qu'il n'empiète pas sur le prix carré chinois?
Oui, juste très très rapidement, pour dire que l'équation puissance économique implique puissance politique et militaire déployée sur le plan mondial, il n'y a aucune raison de la poser comme étant de toute éternité et comme étant nécessairement la plus rationnelle pour tout le monde. Maintenant, sur la Corée du Nord, je crois qu'à nouveau, première remarque, d'abord, la Chine observe. Elle observe notamment qu'il y a eu beaucoup de mousse pour pas grand-chose. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la rencontre de Singapour n'a débouché sur rien. La Chine est, je crois, fidèle à ce que l'on peut considérer comme des postulats de base, à savoir, premièrement, on a besoin essentiellement de stabilité lorsque, effectivement, on est en situation de développement et de construction d'une économie de premier rang, que donc la Chine n'a aucun intérêt à ce que le conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord vienne à dégénérer, sait très bien déployer toute une série de pressions diplomatiques et plus pour effectivement convaincre la Corée du Nord de ne pas franchir une certaine ligne, sait même obéir modérément, semble-t-il, mais obéir quand même aux sanctions internationales. Maintenant, est-ce que véritablement la Chine a intérêt à une réconciliation entre les États-Unis et les deux Corées, à l'extinction de ce foyer? C'est pas non plus très très évident. La Chine est dans une logique impériale. La logique impériale est une logique quand même de vassalisation de la Corée. C'est quelque chose qui existait de toute éternité. Mais comme il y a beaucoup de poudre aux yeux dans cette affaire, je crois qu'effectivement, la Chine n'en fait pas un dossier prioritaire.
Thomas Gomard.
Moi, je pense que c'est un dossier prioritaire pour la Chine, parce que c'est une manière, effectivement, d'asseoir son assise régionale. Je rejoindrai Bertrand Badi sur le sommet de Singapour, qui, au fond, n'a rien produit. C'est-à-dire qu'il me semble tout à fait illusoire de croire un seul instant que la Corée du Nord renoncerait à son arsenal nucléaire, et que ça participe un peu de la lecture de l'importance des questions politico-stratégiques sur laquelle j'insistais. Et ce qui me frappe beaucoup dans cette situation, c'est le lien que nous devons faire entre la situation en Corée du Nord et en Iran. C'est-à-dire qu'un pays qui a développé un programme clandestin d'une certaine manière et a une reconnaissance diplomatique de la part des États-Unis, et l'Iran qui a appliqué l'accord de juillet 2015 dans sa dimension nucléaire est à nouveau sanctionné par les États-Unis. Et j'y vois donc là une incohérence extrêmement profonde et à mes yeux lourde de conséquences de la part des États-Unis.
Nous poursuivrons dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Bertrand Badi et Thomas Gomard après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard croisé sur l'ordre mondial. Nous retrouvons nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, qui vient de paraître dans une nouvelle édition augmentée et actualisée chez Odile Jacob. Et Thomas Gomard, historien et directeur de l'Institut français de relations internationales, auteur de L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, paru aux éditions Thaïlandier. Bertrand Badie, je sais que les questions de rivalité, de conflictualité, de domination des puissances est un sujet qui vous paraît secondaire par rapport aux grands enjeux du monde. Mais je propose qu'on y revienne dans la deuxième partie de cette deuxième partie d'émission, en particulier les questions sociétales, simplement pour qu'on reprenne pied après avoir beaucoup conversé et discuté et échangé sur la rivalité sino-américaine à propos de la guerre commerciale qui prévaut entre Pékin et Washington, pour aborder un petit peu la question de la Russie. Je le citais en introduction de l'émission, la sortie du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, avec risque que cette sortie soit définitive à partir d'août prochain. Thomas Gomard, je me tourne vers vous en tant que spécialiste de la Russie. Elle se retrouve, l'Europe, exposée à un risque croissant de la part des missiles intermédiaires russes. Est-ce qu'on va vers une course aux armements? Que doivent faire les Européens? On évoque une nouvelle guerre froide.
Oui, alors je ne suis pas toujours à l'aise avec ce terme de nouvelle guerre froide, puisque je pense qu'on est dans une configuration très différente, notamment pour la raison suivante, c'est que pendant la guerre froide, les principaux partenaires économiques des États-Unis sont leurs alliés. Et qu'aujourd'hui, le grand paradigme, pour revenir au début de notre discussion, c'est que le principal partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine, et réciproquement, et qui est son principal rival stratégique. Et de ce point de vue-là, il y a une marginalisation de la Russie sur la scène internationale, compensée par un activisme diplomatique qu'on peut observer notamment en Syrie. Ça peut sembler paradoxal, mais ça me semble traduire assez bien les forces en présence. En ce qui concerne FNI, il y a effectivement, ça sera probablement un point de convergence avec Bertrand Badie, l'impression que c'est vraiment, à mon avis, un sujet à mèche lente, c'est-à-dire qui va nous occuper pendant la prochaine décennie, mais par rapport aux enjeux globaux qui semblent complètement disproportionnés. C'est-à-dire le fait qu'on attache autant d'importance à ce sujet est en soi très révélateur, de mon point de vue, de deux choses. D'abord, évidemment, la dégradation de la relation avec la Russie, et d'autre part, le fait que des outils multilatéraux, patiemment construits, de ce qu'on appelle dans le jargon d'arms control, sont aussi en train de se déliter. Et que donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui avaient été mis en place à la fin de la guerre froide, qui avaient d'ailleurs contribué à la sortie de guerre froide. Je rappelle que le traité FNI est signé au milieu des années 80, après la crise des euromissiles, qui avait mis en place tout un dispositif pour essayer d'instiller de la confiance entre l'URSS finissante et les pays de l'OTAN, et en premier lieu, évidemment, les États-Unis. Ce dispositif a survécu, a été consolidé d'une certaine manière pendant les années 90, et le fait qu'au milieu, à la fin des années 2010, nous soyons en train de détruire cela est, de mon point de vue, le signe d'une sorte de régression en termes de capacité multilatérale.
Régression, Bertrand Badie.
Oui, parce que l'intérêt de l'un comme de l'autre, c'est-à-dire de Washington et de Moscou, n'est plus dans la promotion du multilatéralisme. Et ça, c'est effectivement un paramètre nouveau des relations internationales. Il ne faut quand même pas oublier que la guerre froide se résumait à quelque chose de très simple, qui était la co-gestion du monde par deux superpuissances. Alors, ça n'a jamais été parfait, c'était plus compliqué, mais fondamentalement, l'un et l'autre étaient dans ce rôle, et finalement, ils formalisaient ce rôle dans un soutien mou au multilatéralisme, soutien mou parce que, effectivement, le multilatéralisme a été plutôt gelé par la guerre froide que véritablement dynamisé. Mais enfin, tout ceci se faisait dans le cadre d'un multilatéralisme que chacun avait intérêt à respecter. Aujourd'hui, la Russie est dans une toute autre posture. Elle est dans une posture, je dirais, de double reconquête. C'est-à-dire de reconquête d'un statut de puissance, même de superpuissance, qu'elle avait perdu. Et on sait, Thomas est beaucoup plus spécialiste que moi de cette question, je pense que si j'ai tort, il me corrigera, mais on sait que l'opinion publique russe est très marquée par ce désir de reconquête de ce statut de puissance, et aussi d'un certain point de vue de reconstitution impériale. Ça, on l'a moins dit parce que c'était peut-être moins visible, mais la Russie n'a jamais cessé d'être un empire, et surtout pas pendant le temps soviétique, et lorsque l'URSS s'est écroulée en 1991, le premier signe de cet écroulement, ça a été le démantèlement de l'empire. On n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. l'époque, parce que le tsar nouveau mis en place, Yeltsin, en était lui-même l'initiateur de cette division, donc l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, etc., et puis les républiques d'Asie centrale. Bon, mais on sent bien que la dynamique, elle est de ce point de vue-là aussi unilatéraliste de côté de Moscou que du côté de Washington. Washington pour d'autres raisons. Mais cette dynamique unilatéraliste, c'est une dynamique d'affirmation. Mmh. Et cette affirmation, elle se traduit effectivement, alors à la différence des États-Unis, non pas par un projet mondial, même si on voit des Russes s'installer en République centrafricaine ou des choses comme ça, elle se reconstruit sur le paramètre impérial, c'est-à-dire reconquête en quelque sorte des marges. Ça a été le Caucase d'abord, puis l'Ukraine, puis la Syrie. La Syrie, le Moyen-Orient, la Mésopotamie, c'est quand même les marges de l'Empire russe. C'est une très très vieille histoire qui remonte au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Donc effectivement, on est dans cette phase où tout conduit à justement s'affirmer, alors dans cette ambiance néo-nationaliste qui touche le monde entier, mais avec une spécificité russe, à s'affirmer, à en quelque sorte s'opposer, parce que s'opposer est rémunérateur sur ce plan, et du coup à casser ce multilatéralisme dont effectivement on se demande aujourd'hui qui en est le serviteur sincère et fidèle.
Et en même temps, je me tourne vers vous Thomas Gomard, ce qu'on voit c'est les anciens satellites de la Russie. Alors demain dimanche ont lieu des élections législatives en Moldavie, qui fait partie des États qui oscillent entre Russie et Europe. Ce qu'on l'on voit c'est finalement 28 ans après la chute de l'URSS, la méfiance vis-à-vis de Moscou qui grandit dans ces anciennes républiques.
Alors c'est très partagé. Je pense que le pays clé évidemment c'est l'Ukraine. Et avec, on va voir les élections présidentielles à la fin du mois de mars, c'est pas du tout pour minimiser la Moldavie, mais peut-être qu'une des erreurs d'analyse que nous avons pu faire concernant la Russie a été de croire d'abord à sa conversion démocratique rapide et de croire que cette conversion s'observerait également dans ses anciens satellites. Or, il y a une solidité, des liens effectivement noués, non seulement à l'époque soviétique, mais à l'époque impériale, qu'on a, à mon avis, complètement sous-estimé. Et donc, il y a aussi, dans le rapport entretenu avec Moscou, des dimensions que nous ne voyons pas. Je n'ai pas le temps de développer, par exemple, sur la dimension religieuse, mais qui est un facteur tout à fait important. Moi, je pense que la situation que nous connaissons avec la Russie, les États-Unis et la Chine est la suivante. Nous avons promu un monde multipolaire. C'était par exemple un des grands sujets du président Chirac lors de sa présidence. Le monde multipolaire va arriver et des pays européens comme la France doivent y contribuer. Nous avons ce monde multipolaire mais sans multilatéralisme. Et ça, ce n'était pas prévu au programme. Et le multilatéralisme, c'est deux choses, c'est-à-dire à la fois une méthode d'interaction entre les États et entre les sociétés civiles et les États. Et ça, on voit que c'est remis en cause directement à la fois par la Russie, annexion de la Crimée, déstabilisation du Donbass, rapport à l'OSCE, de mon point de vue par la Chine, attitude en mer de Chine, et évidemment par les États-Unis, qui étaient le principal garant du système multilatéral, qui servait évidemment leurs intérêts, mais qui bénéficiait d'une certaine manière aussi à un certain nombre de pays. Donc cette méthode est aujourd'hui grippée, en particulier par l'attitude des trois grands. Même si la Russie ne se situe pas, en termes hiérarchiques de mon point de vue, au même niveau que les États-Unis ou la Chine. La deuxième question, c'est est-ce qu'au fond, politiquement, ça a un sens de dire le multilatéralisme fort, comme le suggère le président Macron, doit être notre priorité diplomatique. C'est-à-dire vous pouvez avoir des très bons multilatéralistes qui ne sont absolument pas démocratiques. Et vous pouvez donc avoir une situation où l'agilité multilatérale peut se traduire par aussi des formes de durcissement, des formes aussi de remise en cause ou de rapport aux sociétés civiles tout à fait particuliers. Et je pense que la Russie, pour finir sur ce point-là, ce que nous n'avons probablement pas compris, c'est à quel point la Russie, dans son rapport à l'Europe, a compris 2005 et le non-référendum en France et aux Pays-Bas par rapport à ce qui est devenu le traité constitutionnel. Pourquoi ? C'est-à-dire que là, je pense que la Russie comprend qu'il y a une déconnexion très profonde qui s'opère entre les élites européennes et l'opinion européenne, et elle produit un contre-discours qui va ensuite s'étoffer pour, d'une certaine manière, incarner l'avant-garde d'une sorte de révolution conservatrice globale. Et je pense qu'on ne voit pas à quel point, aujourd'hui, la Russie, à l'instar de la Chine et des États-Unis, produit de l'idéologie quand les pays européens sont en peine pour le faire.
Alors, pardon, mais on va poursuivre sur cette vision occidentalo-centrée, peut-être, qu'on a adoptée depuis le début de cette émission, juste pour parler tout de même, Bertrand Badi, de la dégradation de la relation transatlantique entre Europe donc et États-Unis. Elle peut avoir aussi une influence et une importance ailleurs, cette dégradation de la relation entre Européens et Américains.
Oui, d'abord... Deux petites choses. Je ne crois pas qu'on soit dans un monde multipolaire. Ce serait simple si on était dans un monde multipolaire, parce qu'il suffirait de construire ou reconstruire une diplomatie de club, de réunir les 5, 6 ou 7, ou je ne sais pas, pôles qui structuraient le monde et ainsi définir sous forme qu'on appelle mini-latéraliste des nouveaux équilibres et des nouvelles règles du jeu international. Non, on est dans un système où finalement l'événement est créé par le bas. C'est-à-dire s'impose aux acteurs principaux, lesquels acteurs principaux ne sont plus des pôles parce qu'ils n'ont plus de capacité d'attraction et de clientélisation. L'un des paramètres fondamentaux des relations internationales aujourd'hui, c'est que le temps du petit frère est terminé. C'est-à-dire le temps du client, de l'allié fidèle. Finalement, qui dépend de qui entre M. Idriss Déby et M. Macron, on mérite de poser la question. Qui dépend de qui entre M. Netanyahou et M. Trump, on devrait aussi sérieusement se poser la question, etc., etc. Ça, c'est une modification profonde. Et donc, il n'y a pas de multipolarité, et effectivement, il n'y a pas de multilatéralisme. Et hélas, il n'y a pas de multilatéralisme parce qu'on est dans une conjoncture où peu nombreux sont les États qui considèrent avoir intérêt à promouvoir le multilatéralisme. Ça, c'est mortifère pour une raison très simple, c'est que effectivement la mondialisation est tellement exigeante que quand il n'y a pas de multilatéralisme, la mondialisation crée toute une série de dysfonctions. Alors maintenant, pour en venir à votre question, la dégradation des rapports entre l'Europe et les États-Unis s'inscrit dans cette logique de fragmentation du monde. Bon, d'abord, une évidence, une archi-évidence, c'est que la fidélité de l'Europe, en tous les cas, dans sa partie occidentale aux États-Unis, était intimement liée à la menace qui pesait sur elle et qui venait effectivement d'un ennemi désigné. Donc, on a été, pendant toute la guerre froide, dans une période de fidélisation qui était encore plus forte qu'on pouvait l'imaginer, parce que dans les moments de crise, le général de Gaulle lui-même était extrêmement fidèle aux alliances. Maintenant, il n'y a plus ce sentiment-là. Il y a un autre sentiment qui est la peur de la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la peur de la mondialisation? Ça renvoie à quantité de choses. Hein. Si on lit l'excellent livre de Milanovic, il vous explique qu'effectivement, les classes moyennes européennes ont beaucoup perdu avec la mondialisation. On s'en rend compte, donc ils ne l'aiment pas. On voit effectivement que les rapports commerciaux s'en trouvent bouleversés. Mais on voit quelque chose de plus profond. C'est qu'avec la mondialisation, il y a une perte de statut politique, pour employer un terme que je n'aime pas du tout, même géopolitique de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe se sent effectivement déclassée, c'est-à-dire voit de plus en plus que son seul rôle est de regarder passer les trains. Et donc, dans ce système-là, les tentations de repli, les tentations néo-nationalistes qu'on voit fleurir partout en Europe, se conjuguent de manière miraculeusement harmonieuse avec le même néo-nationalisme dérivé de la même peur telle qu'on l'observe également aux États-Unis. Les États-Unis, qui ont été quand même à l'origine d'un certain point de vue de la mondialisation, s'aperçoivent qu'effectivement, celle-ci est privative pour elle et même source de menaces. Alors, ça nous ramène à la rivalité avec la Chine, mais pas seulement. Ça nous ramène à un nouveau calcul où l'hégémone est en train de s'apercevoir, et ça c'était un discours commun à Obama et à Trump, faut pas l'oublier. L'hégémone s'aperçoit que la facture est trop élevée, et que donc il faut évoluer vers autre chose, et ceci se traduit côté américain par la même défiance vis-à-vis de la solidarité atlantique, c'est-à-dire celle-ci nous coûte, celle-ci nous entrave, celle-ci nous empêche de regarder nos intérêts nationaux. Et donc voilà, on est dans cette logique globale de décomposition. C'est un calcul utilitaire. La seule piste optimiste, c'est de penser que cette utilité puisse être recomposée dans l'autre sens. C'est-à-dire, mais attendez, si on ne veut pas tout perdre, on aura besoin de reconstituer un minimum de multilatéralisme.
Thomas Gomard.
Bon, je voudrais repartir d'une formule là de Bertrand. On est dans un système où l'événement est créé par le bas. Parce qu'effectivement, ça, c'est un point de convergence que nous pouvons avoir. Et c'est l'idée sur laquelle, et je pense que c'est très lié à quelque chose que nous n'avons pas encore mentionné, mais les technologies de l'information et de la communication, on a un phénomène en fait de diffusion de la puissance qui est très difficile à penser pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on est en train de comprendre que dans un système fini en termes de ressources naturelles et un système qui semble illimité, que ce soit pour les individus ou les organisations, en termes d'accès et de contact. Et ça, c'est une tension très difficile à penser. Et ce qui est également difficile à penser, c'est qu'une fois qu'on a dit que la puissance se diffusait, que le pouvoir se répartissait, etc., ça nous dissuade d'une certaine manière de voir à quel point aussi il se reconcentre dans certains domaines ou sur certains segments. Je m'explique. Je pense que les technologies de l'information et de la communication, c'est à la fois de l'empowerment, c'est-à-dire une capacité individuelle démultipliée, une capacité d'asymétrie jamais rencontrée. Mais nous assistons, à mes yeux, à un très fort phénomène de reconcentration par les technologies de l'information et de la communication. Ce que je veux dire par là, c'est que le poids pris par les GAFAMI, par les plateformes numériques chinoises, fait que nous sommes aussi dans une situation où les complexes militaro-politico-économico-numériques regagnent en concentration. Et où le lien entre ce qui relève de politique d'État et ce qui relève d'acteurs civils se reconcentre à nouveau, probablement d'ailleurs au détriment des Européens qui sont pris en étau entre la puissance numérique américaine et la puissance numérique chinoise. Et à mon avis, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une société mondiale de la surveillance, précisément sous une forme sino-américaine. Dans le livre, j'essaie d'expliquer qu'il y a, de mon point de vue, un autoritarisme numérique qui est en train d'être inventé à la fois, évidemment, par la Chine et dont les Européens subissent aussi les conséquences dans leurs relations avec les États-Unis.
Alors, pour terminer, Bertrand Badie, vous parliez de la perte de statut de l'Europe. Est-ce que finalement, on peut dire au jour d'aujourd'hui que c'est le continent européen qui a le plus à perdre par rapport à ce qu'on évoquait, la place des États-Unis, l'émergence de la Chine, l'influence russe ?
Alors, en tous les cas, je pense que nombre d'acteurs européens le perçoivent ainsi. Et quand je parlais de peur de la mondialisation, ça renvoie effectivement à ce sentiment de déclassement. Ça, c'est un phénomène extraordinairement important qui explique cette extraordinaire crispation nationaliste. Ceci étant, et ça me permet de faire écho à ce que disait Thomas il y a un instant, cette puissance numérique, c'est quelque chose de fantastique, on n'a pas suffisamment pris la mesure. Est-ce que pour autant, en se recomposant pôle américain ou pôle chinois, elle renvoie à l'État américain ? C'est tout le problème. C'est-à-dire on passe maintenant d'un monde qui était fortement interétatique à un monde qui est constitué d'un certain nombre de tyrans privés, je dirais. C'est autant les grandes multinationales que les grandes entreprises productrice de numérique, et ces tyrans privés, c'est pas forcément les enfants de cœur des États, sont pas à la solde de Monsieur Trump. D'ailleurs, Trump lui-même s'en rend bien compte en voyant à quel point les médias lui échappent. Alors, effectivement, l'Europe est doublement malade. Elle l'est, dans le sens que vous décrivez il y a un instant, mais elle l'est aussi par le fait qu'elle n'est pas capable de se recomposer de l'intérieur. Dans cette double entropie dont elle est victime, son poids sur la scène internationale, il est en quelque sorte entre l'apathie et le suivisme.
Thomas Gomard, sur l'Europe, en guise de conclusion.
L'Europe, il y a à mon avis deux choses à avoir à l'esprit. Ça, c'est 8% de la population mondiale en 2030, avec une moyenne d'âge de 44 ans, quand la moyenne d'âge en Afrique subsaharienne est de 20 ans. Donc déjà, ce simple rappel montre les enjeux qui sont devant nous en termes d'inclusion. Ensuite, je pense que l'Europe reste la bonne échelle pour penser le monde. C'est-à-dire que si les pays européens pensent que la solution passe par une voie nationale, le sentiment de déclassement qu'ils éprouvent actuellement ne sera qu'accentué, que renforcé. Autrement dit, je pense que l'Europe a comme projet politique nécessite d'être défendue parce qu'il y a aussi une attente, à mes yeux, d'Europe dans son prototype à l'extérieur. C'est-à-dire que on le minimise souvent, mais moi ça me frappe beaucoup quand je voyage, le fait que ce soit un projet basé sur la réconciliation, que ce soit... Je vais le dire autrement, je pense que les Européens ont perdu de vue à quel point ce qu'ils ont construit est précieux et que donc il faut essayer de le défendre.
Particulièrement vrai en Asie. Europe entre apathisme et suivisme, c'est ce que je retiens là aussi en guise de conclusion. Je reprends votre propos, Bertrand Badie. Merci pour cette participation à cette émission. Bertrand Badie, je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, qui vient de paraître dans une édition augmentée et actualisée chez Odile Jacob. Et Thomas Gomard, historien et directeur de l'Institut français des relations internationales, auteur de L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, par aux éditions Talendier. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons enjeux agricoles et alimentaires à l'occasion de la tenue du Salon de l'agriculture à Paris.